Tous les jeudis à 9h30 et 17h30, la librairie Caractère Social Club à Mont-de-Marsan explore pour vous l'actualité du livre. Rencontre avec les auteurs et les lecteurs, romans, essais, recueils de nouvelles ou de poèmes, sélectionnés et présentés par vos critiques, Aurore Pourny, Anthony Clément et Romain Baxer. Tous les jeudis à 9h30 et 17h30, mettez-vous à la page avec Radio MDM.
Ça ne se voit pas forcément, ça s'entend peut-être, mais on n'est pas prêt. Si, on vient juste de s'installer pour tout dire, on est debout, nous sommes debout, nous vivrons debout, nous mourrons peut-être debout et avec nos idées, plutôt que de nous mettre à genoux, résignés. Bonjour Anthony Clément.
Bonjour.
Voilà, c'est un peu poussif, hein, on arrive de la machine à café, on devisait de tout, et notamment de littérature, et c'est ce qu'on va faire cette fois-ci in vivo, comme on le fait tous les jeudis en votre compagnie. Comment va-t-il ?
Très bien.
Ouais.
Très bien, très bien.
Il est content, il est heureux comme un Italien qui a lu du Pirandello. Je sais pas.
Comme un Italien qui a reçu Macron.
D'accord. Ouf, comme vous y allez. Vous êtes décapant.
Non. Alors, un peu fatigué, c'est la rentrée, évidemment. Ouais. Mais en tout cas, content des parutions de cette rentrée littéraire. J'avoue que je vogue, je saute de coup de cœur en coup de cœur.
C'est ce qu'on avait dit, moins de livres, mais plus de
j'ai
qualité avant la quantité.
Ouais, voilà. J'ai l'impression, en tout cas c'est la direction prise dans tout ce que j'ai lu pour le moment, et je suis venu ici il y a 2-3 semaines. Mm-hmm. Voilà, je lis des choses vraiment passionnantes avec des écrivains qui ont du coffre, qu'ils soient américains, français, comme nous sommes venus parler de Cécile Coulon,
oui.
ou même là, Pete Fromm qui sort cette semaine, qui avait écrit Indian Creek et qui revient avec Une vie en chantier, qui est vraiment un grand texte, je pense qu'on en parlera sur les ondes, mais chez les écrivains francophones, français, on retrouve aussi plein de pépites, voilà, donc on est là pour ça.
Et parmi ces pépites,
très bien, on va parler de deux livres, deux parutions, deux nouveautés,
oui.
Évidemment de cette rentrée littéraire, et en même temps, comme on le fait régulièrement, d'une sortie poche. Donc dans cette première partie de chronique, nous parlerons de Bernard Chambaz pour son nouveau livre sorti fin août aux éditions du Seuil, qui s'appelle Un autre Éden, et je reviendrai juste après pour Éric Plamondon, la sortie de Takawan en poche. Bernard Chambaz, vous le connaissez ?
Oui.
Journaliste sportif, spécialiste du vélo, aussi de la course à pied, qui avait eu le Goncourt du premier roman en 93 pour L'Arbre de Vie chez François Bourin, un prix Apollinaire en 2005 pour Été chez Flammarion, et puis en 2014 le prix de littérature sportive que vous connaissez, hein, j'imagine.
Oui.
Voilà, pour Les dernières nouvelles du Martin Pêcheur. C'est un livre, Un autre Éden. Quand je vous dis Un autre Éden et que vous voyez la photo,
ouais,
Anthony.
Ouais, oui, je me suis dit, on est quoi, en Polynésie non.
Et quel est cet homme sur la couverture ? Vous ne la voyez pas sur les ondes, évidemment.
Mais... Je ne vois pas non plus. Je vois très mal. Alors, je suis perturbé avec Éden. Je pense à James Dean, mais c'est absolument pas lui.
Mais
ou alors,
non,
il aurait pris un sacré coup de vieux. C'est pas lui. Et puis, un peu de Gradubide aussi. Bah, enfin, bon, peu importe.
Alors, bref, si vous aviez regardé La Grande Librairie il y a 15 jours, je parlais justement à La Grande Librairie de Jack London et d'un livre. Très,
c'est
très important,
London, d'accord.
Voilà, pour un nombre très important de lecteurs de par le monde, qui est Martin Eden.
Tout ça pour
Eden.
Dire, il est, voilà, pour non, rappeler.
Il n'empêche.
On vous a mis le lien, d'ailleurs, vous pouvez aller voir
Eden.
Le passage d'Anthony Clément sur la 5 entre Céline Coulon et Amélie Nothomb, je crois. Hein.
C'est ça, ouais. Juste après.
Voilà, excuse du peu, brother.
Bref, il n'empêche que Martin Eden, et je sais que voilà, des auditeurs, des auditrices ont lu ce texte et certainement ont été bouleversés par ce texte. Martin Eden est donc un des grands livres de Jack London. On va dire un livre un peu biographique, autobiographique, même s'il s'en refusait. Mais Un autre Éden aurait pu s'appeler Un autre Martin. En ce sens où Bernard Chambaz, le traumatisme de sa vie et qui revient de manière filiale au travers de tous ses livres publiés, c'est évidemment la disparition de son fils à l'âge de 16 ans. Martin était né en 76, un mois de janvier, 100 ans, mois pour moi, après la naissance de Jack London, qui était donc 100 ans avant, né aussi en janvier 76. Donc, l'auteur va partir un petit peu sur les traces de Jack London. On va évidemment prendre la route dans le nord des États-Unis, le Canada, à vélo pour l'auteur et le narrateur, en voiture pour sa femme, c'est-à-dire qu'elle va le suivre sur sa route. Et on va partir justement à la découverte d'un autre London, d'un autre Eden, d'un autre Martin Eden, puisque j'estime que l'auteur, évidemment, entend dans Martin Eden la biographie de Jack London. Et donc, on va aller à vélo, comme je le disais, voilà, proche des mers vertes, proche de, évidemment, des phoques, des eucalyptus, des invités surprises, des capricornes. Et on va entendre une autre histoire de Jack London, mais à travers les yeux, voilà, de ce fils disparu, Martin, qui aurait... Jack London est mort à 40 ans, et Martin, cette année, aurait 40 ans, aurait une quarantaine d'années quand il a commencé à écrire ce livre. Donc, c'est très, très touchant, en ce sens où il fait converser, c'est véritablement un ouvrage à trois voix, où on entend évidemment la voix de Bernard Chambaz, dans la narration, évidemment celle de Jack London, depuis son enfance, les lectures qui l'ont bouleversé, les personnes qui ont été importantes dans sa vie, sa mère, sa nourrice Virginia, puis après tous les menus boulot, on va entendre même si la mère est très très importante évidemment, puisqu'on finit avec le Snark, qui est un des grands livres aussi de Jack London, mais on va entendre aussi la voix de Martin, de ce fils disparu trop tôt, de manière accidentelle, et toute cette poésie de Bernard Chambaz, en même temps toute cette pudeur. On n'est pas dans le roman biographique à la Ian Moix, bien au contraire. Voilà, on est véritablement dans la biographie littéraire, qu'elle soit celle, comme je le disais, de Jack London ou de son fils, et en même temps celle de Bernard Chambaz. On est dans ce qu'apporte la littérature, c'est-à-dire le dépassement de soi, la possibilité aussi de faire le deuil, la possibilité de parler de l'autre pour parler de soi. C'est véritablement ça, tout le génie de cette histoire de Bernard Chambaz, en ce sens où, voilà, en allant dans le prisme, en allant dans la vie de l'autre, on peut évidemment parler de ses désillusions, de ses espoirs, de son deuil, de ses traumatismes, et en même temps de ce qui a changé nos vies, c'est-à-dire aux morts pour qu'ils vivent, c'est un peu en exergue du livre, et aux vivants pour qu'ils aiment. Voilà, donc c'est toute la pudeur, toute la décence, toute la dignité d'un Bernard Chambaz qui arrive vraiment au sommet de son art, et qui par ce roman que vous allez, alors certains embrasser, je l'espère, dès les premières pages, mais vous allez voir au fur et à mesure de la lecture, voilà, les trois voix s'en mêlent, et s'en mêle de la plus belle des manières avec, voilà, toute cette pudeur qui est celle de l'auteur. Donc moi, je le recommande. Voilà, ça s'appelle Un autre Eden. Ça aurait pu s'appeler Un autre Martin. Mm-hmm. On va évidemment, comme je le disais, voilà, découvrir une autre facette de Jack London et découvrir aussi une autre facette de Bernard Chambaz dans cette filiation, la perte de son fils, la volonté d'en faire le deuil par la littérature. Voilà, c'est un très très beau texte publié aux éditions du Seuil, sorti fin août. Il a déjà beaucoup de presse. Je pense que ce sera un des ouvrages importants de cet automne.
Un autre Eden, voilà, un autre chef-d'œuvre peut-être à mettre sur votre table de nuit, sur une autre étagère, ou peut-être à donner dans d'autres mains, parce que c'est aussi ça, se faire passer des livres.
Exactement, j'en profite avant de faire la petite pause musicale de la sortie poche de Éric Plamondon aux éditions Le Livre de Poche. Le titre, c'est Takawan. Il avait été défendu sur vos ondes par mon collègue Romain qui m'avait dit lis-le, vraiment ça va te plaire, et ça m'a beaucoup plu.
Bah oui.
En effet, on est également.
Il n'est pas le seul à le penser. Il y a un certain Augustin. Je vous coupe. Un certain Augustin Trapenard. Je vois ça. Hein,
qui signe le bandeau en disant que c'est une pépite. C'en est une. C'est une narration assez découpée en courts chapitres. On va dans les années 80 entendre le soulèvement, d'une réserve indienne, les Mi'kmaq, puisque les policiers de la Sûreté du Québec décident de réquisitionner leur filet et donc de mettre à mal leur pêche multiséculaire du saumon. Et donc on va entendre par ce soulèvement évidemment la volonté l'état souverain du Québec de mettre à mal évidemment tout un héritage indien, et puis eux, on va entendre aussi dans la personne de tous ces Indiens, de tous ces personnages, qu'ils soient adolescents comme le jeune personnage féminin dans ce texte-là, dont j'ai oublié le prénom, mais c'est pas grave. Mais on va entendre aussi, voilà, des générations plus âgées, et en même temps toute cette filiation depuis plus de 1000 ans, des gens qui sont des pros de la résistance désormais, des pros de la résistance par rapport à leur langue, par rapport à leur tradition, par rapport à leur coutume, et par rapport évidemment au fait que la terre la terre appartient à tout le monde. Mm-hmm. Et par le, voilà, la métaphore du saumon, ce saumon qui fraye pour revenir à ses origines, on va entendre voilà, toute la résistance d'un peuple. C'est un très très beau texte, signé Éric Plamondon, né au Québec et qui habite Bordeaux et qui est peut-être de la famille d'un Plamondon.
Bah, alors voilà, on se posait la question en off, voilà. C'est pour ça qu'on était en retard. Éric Plamondon a-t-il un lien de parenté avec Luc, l'auteur de, co-auteur de Starmania? Nul ne sait.
Voilà qui je sais pas. Faire. Nous ferons la recherche.
C'est chez, vous m'avez dit.
C'est au livre de poche. Voilà. Tout c'est ça pour dire que, ouais. Au-delà de ces histoires de lutte, de pêche, de soulèvement, de résistance, il y a aussi toute une intrigue et ça se finit presque en roman noir, en roman polar. Voilà, avec des disparitions, des kidnappings et des violences. Voilà, plein de brutalité et de poésie dans ce texte.
Éric
Takawan.
Plamondon. Donc, de la difficulté de vivre avec des gens qui ont connus ou de homonymes illustres. Je voulais en venir à ça. Alors, je voulais faire un erratum, c'est l'enthousiasme qui a parlé, au sujet de du livre qu'on vous a présenté la semaine dernière, d'une certaine Aurélie Champagne. Ça pouvait pas tomber pile au milieu avec une autre Aurélie Champagne, l'auteur de Zébu Boy, hein, qui nous a été présenté chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Elle est bordelaise, elle est pas du tout de Mont-de-Marsan et journaliste au Confrères Sud-Ouest. Je fais un rectificatif, hein. Mais ça aurait pu le physiquement, le parcours, peut-être même l'écriture ou l'univers. Enfin bon là, en connaissant une des deux, enfin ça c'est incroyable. Mais ce n'est pas du tout elle, c'est un premier roman donc qu'on peut toujours retrouver chez vous. Voilà.
Exactement. Je c'est rétablis. Un des coups de cœur de la librairie Zébu Boy aux éditions Toussaint l'ouverture.
Alors, de la même façon, la pause musicale, on va la faire avec un certain David Daricarère, qui c'est pas absolument pas l'entraîneur de rugby hein, du Stade Montois qui chante. Hein. Non, c'est un homonyme. David Daricarère, il est nantais, c'était le chanteur du groupe Smooth, groupe électro-pop. Et on va écouter donc du coup David Daricarère, sans le ballon, mais avec le micro.
Très bien.
MDM.
MDM.
MDM, votre radio locale.
She's a million words that we can sing in a song. She's a wind of glory, makes you feel like you're strong. She's an ocean prey that makes you dance right along. Dance right along.
Devil's tune, man.
vos valises, restez sur MDM.
Et on danse aussi au son de D-Twice, porté par son chanteur David Darry Carrère. Je rassure hein, tout de suite, si vous nous prenez en cours de route, hein, les supporters du Stade Montois Rugby, ce n'est pas l'entraîneur de leur club favori qui est au micro. Non, non, il est toujours sur le banc des Jaunes et Noirs, c'est son homonyme, musicien nantais que vous écoutiez à l'instant. Le retour, retour à nos rendez-vous littéraires. Avec Anthony Clément et un bouquin, livre et un titre de sa mère. Titre qui tue. Ah ouais, alors je laisse le faire.
Très bien.
Je laisse le poser.
On va parler ce matin littérature espagnole et je vais de suite dire le titre, sinon Anthony va m'en vouloir. Ce que la mort nous laisse.
Définitif.
De Jordi Ledesma aux éditions Asphalte. Asphalte a à peu près une dizaine d'années d'existence, puisque je me rappelle du premier titre au moment où j'avais repris la librairie Caractère, c'est donc en 2010. Voilà, donc ils ont une dizaine d'années, c'est deux éditrices qui font un merveilleux boulot, beaucoup de littérature européenne, espagnole, mais elles partent jusque en Australie. J'étais déjà venu pour Shangri-La, un des meilleurs romans surf de Malcolm Knox, donc aux éditions Asphalte. La particularité de cette maison d'édition est d'agrémenter à chaque livre playlist, voilà, qui est donc disponible sur le site des éditrices. Donc ça s'appelle Asphalte. Voilà, donc si vous allez sur la fiche livre de Ce que la mort nous laisse de Jordi Ledesma, vous pourrez découvrir une playlist de 12 titres.
Qu'on imagine évidemment en raccord avec l'univers du bouquin.
Avec l'univers du bouquin, l'ambiance ou même l'écriture. Voilà, c'est pas obligé.
C'est mieux qu'un 4 de couve ou une critique de... voilà, d'Augustin Trapnard au hasard.
Exactement. Donc, un espagnol, ça me fait très plaisir de revenir un petit peu dans la littérature hispanophone. On est dans les années 90. Jordi Ledesma est né en 1979. Il a trois forfaits dans sa besace. Il me semble en 2012, un premier titre qui n'a pas été traduit. Et ensuite, il est revenu en 2014 pour El Diablo en cada esquina, toujours aux éditions Al Revés, mais pareil, qui n'a pas été traduit. Je crois que c'est le premier livre traduit de Jordi Ledesma, Ce que la mort nous laisse. Donc, nous sommes dans les années 90, dans ces stations balnéaires. Il n'y a pas véritablement de nom. Il est né à Tarragone. On est quand même sûr que c'est pas très éloigné. Une de ces stations balnéaires méditerranéennes, la Costa Dorada, comme on l'appelle, voilà, où généralement, l'été, il y a beaucoup de monde et l'hiver, il n'y a plus personne. On se retrouve avec ce flot insouciant de tourisme directement en plein été, mais sur la Costa Dorada. Donc évidemment, avec toute cette, depuis une quarantaine d'années, ce qu'a fait l'Espagne, dans la comment elle a défiguré malgré tout une partie de sa côte. On sait évidemment la spéculation immobilière, tout ce qui s'est passé, avec ceux qui ont réussi à conserver tes appartements, les autres qui les ont perdus au bénéfice de compagnies d'assurance ou de banques et bien d'autres. Donc il y a ces problèmes, ça n'est pas la Costa Dorada, juste le devant de la scène, c'est-à-dire où il fait beau, on mange des tapas, on dragouille et on prend un peu de drogue dans des soirées. Il y a évidemment tout derrière, l'ambiance de l'écueil, de la crise sociale, des différences. Et donc, on va suivre plusieurs personnages dans cette ambiance des années 90 sur la côte espagnole. Donc on va suivre évidemment le Ignacio Robles, qui est quand même d'une famille bourgeoise, qui est plutôt agent immobilier. On va suivre la belle Lucia, on va suivre le crocodile, ce commandant local de la Guardia Civil qui n'est pas, très très juste et très très intègre. Il manque un peu de dignité.
Il est resté sur Franco, lui.
exactement. En tout cas, ce qui est très intéressant, au-delà de l'histoire, du contexte des années 90, de la critique sociale et tout ça, c'est véritablement le rythme. On est, dès les 100 premières pages, dans une forme de roman, où on est vraiment dans la peinture du roman social, à l'espagnol, avec un auteur qui est jeune, mais qui a malgré tout la virtuosité, de camper
très très bien psychologiquement les personnages, d'avoir de très très belles descriptions sans jamais être lourd, de nous embarquer dans un flot comme ça, incessant de descriptions, mais sans jamais, voilà, nous, toujours en nous retenant parce qu'on sent qu'il va se passer des choses. Et donc les 100 premières pages, c'est plutôt du roman blanc, on pourrait dire, voilà, du roman tel qu'on le connaît. Et dès juste après la 100 première page, la 100e première page, voilà, on retrouve une ambiance de roman noir. Et c'est véritablement la bascule avec un auteur qui est un des plus beau représentant pour moi de la littérature negra espagnole, si. Voilà, la littérature noire espagnole. Et donc, on est proche, parfois, même dans la virtuosité et le génie, d'un Enrique Vilamatas, voilà, d'auteur comme ça, très très campé dans la critique sociale aussi. Donc, on va suivre tous ces personnages avec leurs problèmes, leur précarité, problèmes de drogue, et puis surtout la disparition, et on va retrouver un corps sur la plage inerte d'un jeune homme. Voilà, et là, ça va partir en cacahuète, si vous m'excusez l'expression.
En pipasse.
Voilà, pipasse. Oui. Voilà. Et donc, moi, si j'étais parce que j'ai regardé quand même la presse espagnole, et je me suis retrouvé quand même avec, quand je vois la virtuosité de cet auteur, mais le fait qu'il soit pas si lu comme ça dans son pays. J'espère, voilà, que le public francophone va s'emparer de Jordi Ledesma, parce que on est, si vous souhaitez entendre, ce sont nos confrères, ce sont nos voisins, si vous souhaitez entendre véritablement ce qui s'y passe aujourd'hui après la crise immobilière et tout ça en Espagne, c'est véritablement un des romans les plus représentatifs et en même temps une des histoires les plus prenantes dans des zones que l'on connaît malgré tout, ouais, que l'on traverse, que beaucoup ont traversé, mais que l'on, voilà, dont on devine évidemment derrière le rideau des problèmes, des problématiques, et Jordi Ledesma va nous emmener dans un tourbillon comme ça avec des personnages très charismatiques et dans une langue très très contemporaine, très proche du rock aussi et du punk, avec voilà les soucis, comme je le disais, de drogue et d'insertion sociale. Voilà, grand texte. Je vous écoute.
Oui, non, je suis rien du tout, hein, mais je voulais juste tirer la sonnette d'alarme. J'ai l'impression qu'il est en train de se passer la même chose chez nos amis portugais. Voilà, où il y a une invasion de touristes et où même les gens sont obligés de vendre leur maison ou ne peuvent plus habiter dans les centres-villes.
Exactement. Se font expulser, et c'est la nouvelle génération. Ouais. Vous avez totalement raison, puisque par exemple des représentants comme Walter Ugomay, voilà, qui s'est emparé de la classe ouvrière, qui s'est emparé évidemment de la crise aussi au Portugal, de la différence avec les autres pays européens. Évidemment des ressources, que ce soit le salaire ou autre, voilà. Vous avez raison, ces générations qui sont nées, parce que là on est vraiment dans une littérature post-franquiste, voilà, au Portugal on a aussi ces générations nées dans les années 70-80 qui sont maintenant la lumière qui nous éclaire véritablement sur l'état actuel de ces pays et leur devenir, et en même temps l'ambiance des gens modestes, de l'ordinaire, de quotidienneté, on va dire, dans ces pays-là. Donc, si vous souhaitez, voilà, embrasser avec une intrigue, être pris par le tourbillon de l'écriture de Jordi Ledesma et en même temps découvrir, voilà, avoir un tableau un petit peu de nos générations, enfin, voilà, de l'actualité, évidemment, sociale en Espagne, voilà, c'est un très très bon représentant. Il s'appelle Jordi Ledesma, Ce que la mort nous laisse, et c'est aux éditions Asphalt, avec la possibilité, évidemment, d'écouter cette playlist de 12 titres qui commence par Charles Bradley.
Oui, alors juste pour vous donner le ton, c'est génial cette idée, hein, comme ça, ça donne c'est le cas de lire, le ton du bouquin, pour vous donner un petit peu l'univers. Sachez que donc on retrouve, il y a de la soul music avec Charles Bradley et James Brown. On retrouve les grands noms du rock avec les Clash et plus psyché, le Velvet Underground. Et puis, il y a également Miles Davis et bon nombre de titres d'interprètes espagnols, dont la Mala Rodriguez ou encore Baya Condios. Eux sont belges, je crois, mais chantés en espagnol jadis, notamment. Et voilà, ça vous donne un petit peu, on imagine l'univers si on connaît un peu les morceaux de ce bouquin. Et ça donne deux fois encore plus, il y a 12 titres, 12 fois plus de raisons ou d'envie, en tout cas, de le lire. Merci beaucoup, et même beaucoup plus, grâce à vous, rien, mon cher Anthony.
Voilà, donc Bernard Chambaz à Notre-Dame, aux éditions du Seuil. Très très beau roman dans la catégorie littérature française, dans cette rentrée littéraire. Évidemment, on poursuit avec un francophone, Eric Plamondon, québécois, sorti en poche de Takawan. Et puis Jordi Ledesma, donc Ce que la mort nous laisse, aux éditions Asphalt, qui vont fêter leur 10 ans d'existence, voilà, avec un catalogue qui s'étoffe et de plus en plus beau.
La barre est dure, tiens-la bien. Merci beaucoup, mon cher Anthony. À très très
merci
vite.
Merci à vous. Très bonne okay. journée.
Bonne journée à vous.
L'actualité du livre sur MDM, c'est tous les jeudis à 9h30 et 17h30. Retrouvez votre sélection littéraire et le programme des animations à la librairie Caractère Social Club sur la page Facebook de Radio MDM.